Notez que cette émission a été enregistrée lors de la diffusion en direct de la série sur la santé consciente.
Bonjour et bienvenue à mon salon santé consciente. Aujourd'hui, j'ai avec moi une pharmacienne, elle s'appelle Caroline Croteau. Vous la connaissez peut-être pas encore, mais c'est une question de temps. J'ai découvert Caroline, entre autres, dans un programme qu'on a fait ensemble, mais elle était aussi au Salon de l'éveil. Et on parle aujourd'hui de l'effet placebo, parce que, Caroline, je te présente, bon, tu es pharmacienne de formation, tu travailles dans ce domaine-là, mais ta conférence au Salon de l'éveil, c'était sur l'effet placebo. Puis là, je me suis dit, je viens de me trouver une alliée, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne depuis des années. Quand j'avais 20 ans, j'étudiais pour devenir médecin, puis j'ai changé d'idée. Et je me disais, comment ça se fait qu'on s'intéresse pas plus à l'effet placebo si on peut tout guérir avec une pilule de sucre ou avec une pensée magique de dire « mon médecin va me guérir » ou « l'intervention chirurgicale va me guérir ». Finalement, le placebo, ça peut être soit un thérapeute, soit une intervention, soit un médicament ou autre chose, tu pourras me le dire. Alors, comment ça se fait qu'on fait pas plus d'études là-dessus? On pourrait l'amener dans la conscience, ça, puis ça ferait en sorte qu'on pourrait se guérir avec le pouvoir de l'esprit. Ça, c'était il y a 40 ans. On est aujourd'hui encore en train de se poser des questions. Fait que bienvenue à mon salon Santé consciente. Est-ce que, pourrais-tu me dire d'où ça part, toi, ton intérêt de l'effet placebo?
Absolument. Bien, premièrement, merci de m'inviter dans ton salon. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui.
Dans mon salon? On est dans mon salon.
Oui. Donc, je suis pharmacienne, comme tu disais, de formation. J'ai un PhD aussi en sciences pharmaceutiques. Mais l'effet placebo, ça m'a toujours fascinée. Si on se rapporte dans les années 90, là, quand j'ai fait mes études, on nous a présenté ce concept-là. On avait déjà entendu parler. Puis, à l'époque, tout ce qu'on disait, c'est que c'était vraiment, c'est une pilule de sucre, comme tu l'as dit, puis que ça pouvait avoir des bénéfices psychologique hein, chez les patients. Donc, on mettait ça sur le dos de l'imaginaire, de que les gens se sentent, peut-être disent qu'ils se sentent mieux, mais finalement, ils ne se sentent pas mieux. C'est dans leur tête. Et moi-même, à l'époque, ça faisait... Il me semble qu'il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas, parce que c'est un petit peu même infantilisant de penser ça, que finalement, tu es dans une étude, puis que là, parce que tu penses que peut-être ça va aller mieux, ça va mieux. Il y avait quelque chose à l'époque qui, chez moi, résonnait pas, mais je trouvais ça absolument fascinant. Donc, un peu comme toi, je me suis mis à m'intéresser à ça. Puis là, on fast forward, là, on avance d'une quarantaine d'années. Bien, on se rend compte que oui, il y a de plus en plus d'études qui se sont justement intéressées à l'effet placebo, parce que la science, c'est ça aussi, ça évolue avec les pensées, ça évolue avec les mentalités. Donc, il y a des scientifiques qui ont commencé à se poser la question, mais comment ça se fait que ça fonctionne? Puis aujourd'hui, avec l'évolution des neurosciences, on se rend compte que c'est pas juste dans notre tête, c'est carrément dans notre tête. Dans le sens que on voit avec l'imagerie médicale de nos jours que l'effet placebo, donc si on prend un placebo, l'effet placebo va générer des changements neurophysiologiques. Là. On le voit carrément là, en imagerie médicale. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait une cascade de molécules neurobiochimiques, hein? Toutes sortes de molécules qui vont se sécréter dans notre corps. Moi, j'appelle ça notre pharmacie interne, qui vont aller là où on s'attend qu'on puisse observer un effet pharmacologique. Donc, il y a une grande...
Cet effet-là peut mener jusqu'à des changements physiologiques importants dans le corps, voire même jusqu'à la guérison. Là, je vais faire un petit... tu dis, on a fait un saut dans le temps. Alors, j'ai ici le placebo, c'est vous, de Joe Dispenza, que j'ai lu, moi, il y a 10 ans quand ça a sorti. Personne... C'est drôle parce qu'en 10 ans, ça, il y a vraiment eu une accélération. Quand moi, j'ai lu ça, puis je parlais de ça aux gens, je disais, enfin, quelqu'un qui écrit là-dessus, parce que moi, je le vis avec mes ateliers, entre autres, je faisais des ateliers dans le bois de 2014 à 2020, jusqu'à la pandémie, qui s'appelait « La guérison, c'est un état de conscience ». Puis là, je parlais de la guérison de l'être, parce que moi, j'amenais les gens à comprendre que c'était leur pensée qui changeait tout. Et en 3 jours, je voyais des changements très, très, très importants, jusqu'à assister à des changements qui m'ont étonnée moi-même, parce que moi, je faisais rien. Là. Je veux dire, on est dépassé l'ère de « lève-toi et marche », comme je dis tout le temps. Là. On ne met plus la main sur l'épaule d'un patient pour dire « lève-toi et marche ». Mais je leur donnais des outils pour transformer leurs pensées, leurs croyances qui ont été engendrées par des peurs, qui ont été engendrées par des blessures. Là, si on comprend les grandes blessures de l'être humain, la trahison, l'abandon, le rejet, je les amenais dans un grand parcours de guérison psychique. et j'y voyais des résultats dans le physique extrêmement intéressants. Puis là, je lisais Joe Dispenza qui venait confirmer ce que j'avais écrit un an plus tôt avec l'histoire de Matcham Anne-Marie, hein, « Vive et mourir guéri » qui a été publié à la même maison d'édition, c'est-à-dire chez Ariane, pour expliquer dans l'alchimie du corps humain. Fait que là, moi, je dis des grosses affaires parce que je suis pas pharmacienne. Là, tu vas pouvoir m'amener à le comprendre parce que, dans le fond, ce que je me disais quand j'avais 20 ans, puis ce que je me dis encore aujourd'hui, c'est « Hey, si on peut se guérir avec une pilule de sucre, enlève la pilule de sucre, entraîne l'esprit, puis tu vas pouvoir guérir la même affaire. » Est-ce qu'on est d'accord?
Dans le principe, absolument. C'est sûr que, bon, je suis pharmacienne, là, je vais rester dans l'humilité. Là, la guérison, encore au niveau scientifique, avec l'effet placebo, on parle plutôt de modulation, qu'on est capable d'influencer les mécanismes internes. Mais je pense que oui, il y a des exemples extrêmes comme ça qui nous montrent potentiellement ce qui est possible, puisqu'on n'est pas encore capable de répliquer de façon objective en science. C'est ça qui est difficile. Hein? Quand on se base sur la science, c'est extraordinaire parce que ça évolue, ça nous apprend à comprendre avec des mécanismes, je vais dire newtoniens, là, de très chimiques, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Puis l'impact de l'esprit là-dedans, ben tranquillement, avec l'effet placebo, je pense qu'on met les orteils là-dedans parce qu'on commence à regarder, ben c'est quoi qui influence l'effet placebo? Puis comme tu le dis, c'est bien donner un placebo. Il y a même des études maintenant où ce que, ben, on le sait, hein, quand on veut approuver un médicament, il faut montrer que c'est plus fort que l'effet placebo, hein, que ça marche mieux qu'un placebo. Mais le placebo, je dirais qu'il a été prouvé par tellement d'études randomisées contrôlées, donc qui est la plus haute forme de preuve scientifique, dans le fond, là. Mm-hmm. Que ça existe. Donc, c'est pour ça qu'on s'y intéresse et puis qu'on essaie de comprendre bien, qu'est-ce qui module l'effet placebo. Puis, comme tu l'as dit, il y a plein de facteurs, puis c'est reconnu dans les études qui vont influencer, bien, c'est nos attentes. Donc, c'est quoi nos attentes? Dans le fond, bien, c'est un petit peu comme tu dis, c'est nos pensées. Qu'est-ce qu'on
un changement de pensée, c'est un changement d'attitude et d'état. On change notre état intérieur, on transforme nos pensées qui vont avoir un effet nocebo, c'est-à-dire un effet négatif sur le corps. Là, on pourrait peut-être donner des exemples, parce que moi, quand je me suis intéressée à ça, les études, ça datait des années 50-60, où est-ce qu'on racontait l'histoire d'un homme, entre autres, qui avait été guéri par un médicament. Il apprend dans le journal que le médicament, finalement, il est pas bon, il retombe malade. Son médecin, il dit non, c'est correct, on va t'en donner un autre. Il sort guéri, il apprend que c'est pas bon, il meurt. Ouais. Là, je le résume, mais c'était vraiment assez bien documenté, cette affaire-là. J'ai lu ça, entre autres, dans les livres de Mario Beauregard puis dans d'autres livres. Quand le placebo et c'est vous est arrivé dans les années 2014-2015, là, lui, Joe Dispenza, il dit carrément, il a fait des tests avec des patientes qui a amené dans méditation pour transformer leur pensée, leur état intérieur. Et il dit carrément qu'elles se sont guéries, notamment de sclérose en plaques, de maladies dégénératives osseuses, puis une autre affaire, je me souviens plus quoi. Oui, de dépendance grave. Ce qui fait que lui, il ne gêne pas pour parler de guérison.
Oui, puis c'est là où ça devient un peu controversé de parler de guérison dans le monde scientifique, là. Mais c'est vrai qu'il y a des exemples extrêmes comme ça qui portent à poser des questions. Et donc, quand on fait des études, de plus en plus, on voit qu'effectivement, l'effet placebo, tu parlais tantôt, ben, il y a l'aspect éthique hein, qui a été beaucoup soulevé, c'est qu'on fait semblant, qu'on donne quelque chose à quelqu'un, c'est-tu éthique de les tromper comme ça? Mais il y a des données aujourd'hui qui démontrent qu'on a même des placebos, des études placebo ouvertes, donc où on dit aux gens carrément, ben là, c'est un placebo, mais qu'on leur explique les mécanismes, on leur explique qu'est-ce qui se passe? On leur dit que oui, dans les études, c'est démontré. On leur explique qu'au niveau du cerveau, il y a des changements. Bien que quand même, on va avoir des effets positifs. Donc, c'est basé sur quoi? Bien, c'est sur leur compréhension, donc sur leurs croyances qui peuvent eux-mêmes avoir un impact sur leur physiologie.
Et ça, il y a des études aussi qui ont été faites avec la chirurgie. Peut-être tu peux nous la raconter, l'histoire de la chirurgie des genoux.
Oui.
Alors, est-ce que c'est celle-là que tu connais? T'en as connu d'autres?
Oui, absolument. Donc, c'est en fait, on avait une pratique de chirurgie du genou qu'on pensait qui était optimale chez les gens. Et puis, pour essayer de prouver notre point, ben, on a fait une étude cachée, je dirais, où est-ce que les gens étaient opérés pour vrai, il y avait la chirurgie pour vrai, puis l'autre, on faisait juste une incision. On endormait les patients, on faisait juste une incision, on les recousait, puis on leur disait pas qu'ils n'avaient pas été opérés. Puis finalement, Ben, ce qu'on a remarqué, c'est que ceux qui n'avaient pas eu vraiment la chirurgie, qui avaient juste eu l'incision, ils s'en sont sortis aussi bien puis dans des cas mieux que ceux qui avaient l'opération. Donc, c'est là qu'on a dit, oups, notre opération, qu'on pensait qu'il aidait vraiment les gens, ben, à la fin de la journée, c'est peut-être pas ce qu'il y a d'optimal.
C'est fascinant.
C'est tout à fait fascinant.
Tellement fascinant. Puis là, on est rendu à une époque où est-ce qu'on vit une grande bascule de conscience. On va l'expliquer, dans le fond, avec la physique quantique, l'effet placebo. C'est qu'on arrive dans un champ de tous les possibles. Hein, j'aime bien le mot « rewire », là, utilisé entre autres par Joe Dispenza puis tous les Américains qui parlent de ça puis qui parlent d'épigénétique. Le « rewire », c'est-à-dire qu'on recable, on refait une structure du système nerveux, des neurones dans le cerveau pour dire « ça, c'était ta croyance, ça a donné ça. On change ta croyance, ça va donner un autre résultat. » Et là, il y a un champ de tous les possibles qui est ce champ quantique-là. Donc, c'est pas déterminé d'avance.
Absolument. Puis, on pense aussi que là où ça se complique, c'est effectivement, c'est que nos croyances, ben, elles peuvent être subconscientes aussi, hein?
Ben oui.
Fait que c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça. Ben, je change mes pensées conscientes.
Absolument
et puis,
absolument
tout va
pas.
Bien aller.
Pour aller guérir la psyché.
Exactement. Donc, c'est là où j'ai fait aussi des études. Je suis naturothérapeute. Donc, de ce côté-là, je suis un petit peu plus à l'aise de dire, ben oui, il y a des choses qu'on peut modifier dans nos croyances qui vont faire en sorte qu'on va réfléchir autrement, on va penser autrement. Mais c'est tellement complexe, l'effet, que ça peut être influencé par notre culture aussi. Mm-hmm. Hein? Il y a des choses qui, dans notre culture, il y a des études qui sont démontrées, mais si dans votre culture, avoir un médicament injecté, c'est plus fort que d'avoir un médicament oral, bon, ben culturellement, ça va être plus efficace. Il y a toutes sortes de croyances qui ne sont pas juste les nôtres, mais qui sont aussi véhiculées par nos sociétés qui vont nous influencer. Donc, c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas une pensée magique, comme tu disais, mais clairement, nos pensées, nos attentes, mais aussi la relation qu'on a avec nos soignants, la vision que nos soignants ont sur l'efficacité de ce qu'on fait, va tout avoir une influence. Puis c'est là aussi, comme toi, que j'associe un petit peu à la physique quantique. On a des observateurs ici qui vont matérialiser ou en tout cas avoir un impact possible sur la matérialisation ou ce qui va se passer.
Explique-nous là l'histoire de l'observateur, parce qu'effectivement, on comprend maintenant que l'observateur a un effet, tu sais, qu'il n'est pas indépendant de l'expérience, il a un effet sur l'expérience, il influence l'expérience.
Absolument. Donc, c'est la fameuse expérience là avec les deux fentes et puis où est-ce qu'on envoie des atomes à travers des fentes. Et puis, lorsqu'il n'y a pas d'observateur, ben les atomes agissent comme des vagues. Donc, l'infini possibilité des atomes qui vont aller faire un pattern de vagues sur le mur sur lequel on projette les atomes. Mais aussitôt qu'on met un observateur, ben là, les atomes agissent comme des particules. Donc, ils vont passer à travers une fente ou l'autre. Donc, clairement, l'observateur aura un impact. Puis c'est sûr que je vais être la première qui dit, ben c'est facile, on met tout hein, sur l'effet quantique. Là. La physique quantique, ça explique tout. Fait qu'aussitôt qu'il y a quelque chose d'un peu magique, là, on met ça. Mais finalement, plus on fait des études, plus que moi, ça fait sens, en tout cas, qu'il y a des impacts de la physique quantique, même au niveau biologique.
Absolument.
Est-ce que c'est instantané? Ben on est quand même en tridimension ici. Hein? Donc, c'est pas... Il y a des exemples.
Oui, il y en a documenté en plus.
Documenté, là, où est-ce que oui. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, je pense que ça montre ce qui est possible. Mm. Mais clairement, si on gère mieux nos pensées, si on essaie d'enlever nos blocages, qu'on essaie d'enlever ce qui nous alourdit, si on essaie d'être optimistement réaliste, réalistiquement optimiste, je dirais, c'est sûr que ça va optimiser notre pharmacie interne. Donc, okay. Ça ne peut pas nuire, ça peut juste nous emmener dans la bonne direction, je pense.
Bon, bien là, on va utiliser la pharmacienne en toi. Explique-nous d'un point de vue biochimique ce qui se passe dans un effet placebo, par exemple. Bon, on pourrait prendre le cancer, là, mais on pourrait prendre n'importe quelle autre maladie. Là. Quelqu'un qui se guérit avec un placebo, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue biochimique?
Biochimique. Bien, en fait... Encore une fois, je vais faire attention, guérit, mais qui optimise sa pharmacie interne. Ce qu'on a démontré, c'est que ça dépend ce sur quoi on travaille. Parce ce qui est fascinant, c'est que c'est pas générique l'effet placebo. Puis je m'explique. C'est que quand on fait une étude placebo dans la douleur, bien, ce qu'on remarque, c'est que le cerveau va se mettre à sécréter des endorphines. Donc, c'est la morphine interne, je dirais. Donc, c'est spécifique. si on fait une étude sur le Parkinson, par exemple, ça a été beaucoup étudié, puis qu'on donne un placebo, ben là, c'est la dopamine qui va être sécrétée. Donc, c'est un mécanisme qui n'est pas générique en tant que tel. On dirait que le cerveau a cette capacité de faire ses attentes, de moduler en fonction du mécanisme qui est nécessaire pour soulager la douleur.
Le cerveau fait le tri, puis moi, ça m'explique là, tout d'un coup, parce que moi, j'ai toujours été un peu impressionnée que tu prends un Tylenol, puis ta douleur diminue, puis tu prends un antihistaminique, puis tes symptômes d'allergie diminuent ou disparaissent. Alors, une petite affaire grosse comme une tête d'aiguille va aller directement là où le bobo.
Absolument. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que comment est-ce qu'on développe un médicament? Bien, c'est qu'on regarde des récepteurs qu'on a dans notre corps. On regarde des cibles qui existent, là. Okay. Puis on teste le médicament extérieur pour voir s'il y a une affinité. Mais ça veut dire qu'à la base, à l'intérieur de nous, ces récepteurs-là n'ont pas été faits pour l'aspirine, là. Ces récepteurs-là ont été faits pour des molécules à l'intérieur. Donc, quelque part, on les a. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut optimiser, je reviens toujours à ma pharmacie interne, puis de savoir qu'effectivement, le pouvoir de nos attentes, de nos pensées peuvent influencer le tout. Donc, il y a une synergie à avoir. Avec, oui, tout ce qui est traitement conventionnel. Moi, je pense que la pharmacienne ne peut pas faire autrement, que j'ai vu trop de gens que ça a sauvé des vies, aidé la vie, a amélioré la vie. Je pense que les médicaments, ça fait partie de l'arsenal si c'est bien utilisé. Là est la clé. Mais pourquoi pas, en plus, optimiser sa pharmacie interne pour avoir une synergie, que ce soit avec une pilule, que ce soit avec une approche conventionnelle, que ce soit avec une approche complémentaire. Je pense que c'est de comprendre qu'on a tous ce potentiel-là, si ce n'est que réduire son stress. Ben on le sait, ça réduit le cortisol. Ça peut calmer l'amygdale d'utiliser. Donc, c'est de comprendre ces mécanismes-là, mais aussi de comprendre qu'on peut avoir un impact dessus.
Là, puis là, on sait de toute façon que j'ai interviewé plusieurs médecins de la jeune gang de médecins qui sont au sommet de la santé intégrative, entre autres, qui arrivent avec des idées comme la déprescription, c'est-à-dire qu'on comprend maintenant un paquet de mécanismes qui font qu'on peut renverser des maladies chroniques si c'est pris quand même au bon moment, dont le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'inflammation sur toutes ses formes, en fait. Et là, si on est capable de renverser puis enlever certains médicaments, puis là, je sais bien que moi, je continue de croire qu'on a besoin de tout ça, là. Mais si on peut commencer à enlever certains médicaments, bien, forcément, ça veut dire que le corps est capable de générer ce que le médicament lui donnait.
Exactement.
En changeant les habitudes puis des pensées.
Exactement. Donc, c'est là où, moi, j'aime bien parler de juste prescription. Donc, justement, d'optimiser notre style de vie, premièrement. Hein? Donc, ça passe par ce qui est physique aussi.
Totalement.
Ça passe par ce qui est psychique.
Les habitudes de vie.
Ça passe par ce qui est psychique, ça passe par nos émotions, ça passe par nos pensées, parce qu'on le sait aujourd'hui, ça a tous des impacts, puis on a l'imagerie médicale pour nous le montrer, les neurosciences nous le démontrent. Donc, l'effet placebo, si on le rajoute à ça, aux habitudes de vie, on a plus d'impact qu'on pense sur notre santé, surtout si on le fait en prévention. Je pense que c'est plus facile de prévenir, c'est plus long, mais quand il y a le temps quand on a une pathologie qui s'est installée, ben ça prend beaucoup de détermination. Mais c'est faisable, on le démontre de plus en plus.
Surtout pour, entre autres, le diabète de type 2, là, c'est phénoménal. Là, si c'est pris dans la première année, tu peux le renverser genre à 80-quelques%. Là.
Mm-hmm. Oui, en même temps, c'est là où je voudrais faire
ces imageries qu'il y a pour prouver l'effet placebo dans le livre de Joe Dispenza, « Les imageries du cerveau ». Alors, évidemment, je ne vais pas vous décliner comment ça marche tout ça, là, mais il est allé dans le détail pour comprendre tout ça. J'aimerais ça que tu me racontes, toi, dans les histoires que tu as entendues, c'est quoi les affaires les plus fun que tu as entendues, les plus spectaculaires que tu as entendues sur le renversement, justement, grâce à l'effet placebo?
Bien, le renversement, c'est là où, si on prend l'exemple du diabète de type 2, on s'entend qu'on l'a renversé, mais on ne l'a pas guéri. Dans le sens que, on mange plus de sucre, là. C'est pas comme si, hein? Voilà. Donc, c'est pas comme si tout d'un coup, je l'ai renversé puis que là, je peux me remettre à manger du sucre parce que c'est guéri. Mais on l'a renversé de par nos habitudes de vie.
Oui, absolument. De toute façon, on sait que le sucre, c'est du poison. Fait qu'on veut pas aller là anyway.
c'est de plus en plus, on se rend compte, surtout les sucres raffinés. Là, puis ça dépend encore une fois de chaque personne. On est tous uniques. Donc, chez certains, il n'y en aura pas de trop de problèmes. ou il y en aura moins en tout cas. Mais pour revenir à ta question de renverser, une étude que j'avais trouvée super intéressante, c'était en fait, c'était dans la douleur, où est-ce qu'on administrait un placebo ouvert. Donc, on prenait des gens, puis on leur expliquait par contre comment le mécanisme derrière ça, puis les études avec les placebos, puis comment le mind-body, l'esprit-corps, ça pouvait avoir une influence, puis la pharmacie interne, on leur expliquait tout ça. Et puis, on prenait la moitié des gens au hasard, puis on disait, bon, moi, vous, on va vous donner des placebos, vous savez comment ça marche, puis l'autre moitié, on leur donne rien. On dit, vous pouvez repartir, mais après qu'on ait fait l'étude, ben, si vous voulez embarquer, vous pourrez. Ben, on a remarqué que ceux qui prenaient les placebos, si je me rappelle bien, c'était 4 fois par jour. Ben là, eux, leur seuil de douleur a vraiment diminué beaucoup plus que ceux qui avaient juste lu l'explication. Ça avait diminué un petit peu, mais pas tant que ça. Et là, on a dit aux gens qui prenaient le placebo, ben, si vous voulez l'arrêter, c'est correct, mais vous pouvez continuer à participer à l'étude, puis on va vous mesurer dans le temps. Bien, ce qu'ils ont vu, c'est comme si le cerveau avait compris comment ça marchait, bien là, il n'y avait plus besoin de le prendre le placebo parce qu'il avait comme compris. Tandis que ça, on a pris ceux chez qui on n'avait pas donné le placebo, puis on leur a réexpliqué un peu les mécanismes, puis on leur a donné le placebo. Eh bien là, oui, eux aussi ont commencé à avoir une diminution de leur douleur. Fait que quelque part, c'est assez fascinant parce que est-ce que c'est la prise d'eux ou est-ce que c'est justement la conscience qu'on peut avoir un impact? Puis aussi, le regard du clinicien qui va nous aider à avoir cette conscience-là puis qui va croire aussi dans l'approche.
Absolument. Ça, c'est tout des déterminants. Le thérapeute joue beaucoup là-dedans. Puis le fait que tu en prends 4 fois par jour, ça te rappelle. Ça rappelle au cerveau de dire « Hey, tu wake up, n'oublie pas là, cette affaire-là, ça peut vraiment t'aider. » Fait que tu as transformé ta pensée intérieure. Puis le thérapeute joue beaucoup. Moi, j'ai un de mes grands amis qui est physiatre, il est médecin spécialiste, là. Puis il a vécu une expérience de mort imminente il y a quelques années. Et ça a complètement transformé sa pensée parce qu'il a vu bien des affaires puis il a compris bien des affaires à un autre niveau. Puis quand il est revenu, ça a changé un peu sa pratique aussi parce que là, quand il y avait ses patients devant lui, au lieu de leur donner des statistiques qu'il y a ça, 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 puis il y a tant de pourcentage de gens qui peuvent se guérir de telle pathologie ou de telle affection, là, il disait, il y en a un qui s'est guéri, t'es capable.
et là, tu rentres exactement dans l'effet nocebo. Et c'est là que le langage, puis la pratique, puis l'approche du clinicien, thérapeute, ou peu importe, est tellement importante parce que ça peut teinter carrément
la guérison.
La guérison par la perception de la personne.
Attends, mais là, on va le mettre dans une parenthèse parce que tu parles de l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est quand tu dis à ton patient... Il y a tant de pourcentage de gens qui se sont guéris, fait que ça se peut que tu ne te guérisses pas. Lui, il va peut-être enregistrer que ça se peut qu'il ne se guérisse pas. Ça, c'est l'effet nocebo. Mais l'effet placebo, c'est celui qui va dire, bien, s'il y en a un qui s'est guéri, tu es capable, tout le monde peut se guérir.
Mm-hmm. Absolument.
OK, fait que c'est juste pour s'assurer que le nocebo, c'est bien celui qui amène dans la pensée négative.
Puis en même temps, c'est aussi de ne pas mettre de pression chez la personne, parce que si l'autre te guérit, toi aussi, tu peux te guérir, tu peux te battre. C'est beaucoup y aller avec de la compassion, y aller avec de l'empathie. Il n'y a pas de compétition ici, là, avec l'effet placebo.
Mais ce que mon ami a vu, c'est justement l'inverse, là, c'est qu'il s'est mis à voir ses patients, avoir beaucoup plus d'espoir.
Voilà.
Et avec l'espoir, ben là, il se passait quelque chose, tu sais.
Puis c'est pas non plus, parce que souvent j'entends unicorns and rainbows, là, de faire à semblant comme si là, tout était beau, tout était parfait. Non, il y a une réalité qui est là, qui peut être difficile. Mais c'est d'être capable de vivre de façon optimiste, quand même réaliste. Tu sais, je dirais jamais à quelqu'un, bon, ben, tu peux te guérir, donc, mets pas en ordre tes papiers, puis prends pas ton assurance vie, puis tout va être parfait. Non, 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 non. C'est pas le fait de souscrire à une assurance vie qui fait qu'on va mourir ou pas. C'est toujours bien d'avoir nos papiers en ordre. Mais de croire qu'effectivement, si on optimise notre pharmacie interne, si on gère notre stress, si on est capable de visualiser, puis de croire que notre corps a un potentiel, ben ça peut juste aider dans la même direction. Ça peut aussi, en diminuant notre stress, et peu importe, augmenter la tolérance de certaines thérapies, quand on pense au cancer, par exemple.
Absolument. Écoute, quand j'étais une jeune journaliste, là, ça avait renforcé mon intérêt pour tout ça. J'étais une jeune journaliste à Sherbrooke et on m'avait envoyé couvrir une conférence d'un médecin, un oncologue qui traitait ses patients, entre autres, avec de la visualisation positive. Il les amenait dans la sensation des meilleurs souvenirs de leur vie, des plus beaux souvenirs de ce qui était le plus exaltant, le plus amoureux possible dans leur vie, puis ils les amenaient dans un état vraiment qui allait transformer finalement leur pensée, leur biochimie pour accompagner le traitement de la chimiothérapie. C'était pas pour se débarrasser ou non, c'était en parallèle et ils voyaient des résultats extraordinaires. J'avais à peu près 25 ans là, quand je suis allée faire cette conférence-là, fait que ça fait très longtemps. Puis ça, on dirait que ça a été oublié pendant des années, puis que là, on y revient en force avec une nouvelle conscience qui se répand comme une traînée de poudre, de dire « Attends, là, on a ici un véhicule qui peut s'auto-réguler de façon spectaculaire, donnons-lui les moyens. »
Exactement. Puis les avancées dans les neurosciences, l'imagerie par résonance magnétique et tous ces beaux outils sont là pour nous démontrer que physiquement, il se passe quelque chose. Fait que c'est pour ça que moi, je dis le placebo, redonnons-lui ses lettres de noblesse. Et moi, je fais souvent la blague placebo, B-E-A-U. Parce que finalement, c'est un mécanisme qu'on a avantage à comprendre, qu'on a avantage à optimiser, à exploiter chez tout le monde. Et je me dis, au pire, là, supposons qu'on est optimiste puis qu'on est beaucoup plus en paix, bien, si on ne sait pas quote-unquote guéri, ben au moins on va avoir une paix d'esprit qui va être plus grande, on va pouvoir profiter de la vie, on va pouvoir profiter de l'instant présent plutôt que d'être dans une réaction de stress puis de contraction, tu comprends? Tellement. Donc, au final, je pense que on est à la porte de probablement beaucoup plus de données qui vont nous aider à faire des liens entre tout ce qui est quantique. Donc, j'aime beaucoup dire j'ai une main dans la science, l'autre dans la conscience. Là. Donc, on est probablement à la frontière, puis on s'en va tranquillement vers là. Mais quand on voit les études qui sont faites, je trouve ça absolument fascinant. Puis moi, quand la science et les sages se rejoignent, là, c'est sûr que je trouve ça absolument fascinant.
Là, notre cœur explose. Je suis tellement d'accord avec toi. En fait, c'est quand la physique rencontre la métaphysique, c'est là que c'est en train. On est rendu là, on est dans cette jonction-là. Mm-hmm. Hey, je termine avec justement l'histoire de ma chum Anne-Marie. Tiens, j'ai une belle photo à vous montrer ici parce que tu vas aimer l'histoire. Anne-Marie et moi, on était maniaques, on avait une écurie, on aimait monter à cheval. Puis quand elle a été opérée pour son cancer, eh bien, ils ont gratté tellement, c'était un cancer utérin, ils ont gratté tellement qu'ils ont coupé le nerf fémoral, puis elle ne pouvait plus bouger sa jambe droite. Puis il avait dit que ça ne reviendrait pas, puis bon, qu'elle allait devoir compenser avec toutes sortes de mécanismes, peut-être une béquille, machin. Mais elle voulait remonter à cheval. Elle était déterminée à remonter à cheval. Puis c'est sa jambe qui passe par-dessus. Fait que un jour, je suis arrivée chez elle, puis elle me dit, elle m'appelait Gauthier. Gauthier, Gauthier, regarde ça. Puis là, elle lève sa jambe comme ça, d'un coup, qui ne devait plus lever. Elle était tellement déterminée qu'elle avait construit quelque chose autour qui avait fait en sorte que ça compensait que sa jambe était capable de lever tout d'un coup. Et ça a pris quelques semaines, là. Ça n'a pas pris des années, là. Et elle a aussi réussi à transcender, entre guillemets, le cancer à deux fois plutôt qu'une. On y voyait plus rien. Puis elle est finalement partie du cancer quelques années après pour nous montrer comment mourir autrement. C'est pour ça que ça s'appelle « Vivre et mourir guéri ». Mais l'idée, c'était de mourir guéri. Puis ça a été mission accomplie dans ce sens-là. Parce que je dis tout le temps, on va tous mourir anyway. Fait qu'il faut quand même se préparer à partir. Mais pourquoi pas être en santé jusque-là?
Oui, puis en paix.
En paix, voilà. En paix. Oui. Puis moi, j'ai donné pendant plusieurs années là, cet atelier-là là, sur la guérison de l'être. J'ai tout vu se guérir, puis c'est pour moi qui le faisais, comme je disais tantôt. J'ai vu des gens mourir aussi dans une grande, grande sérénité. Puis pour moi, ça, c'était aussi beau que de voir quelqu'un qui m'arrive puis qui me dit « j'ai guéri ma sclérose en plaques parce que j'ai changé telle habitude de vie, telle pensée, telle façon. » Et ça, ça me fascine. Je trouve ça extraordinaire. Mais mourir en paix, c'est aussi extraordinaire que vivre guéri, là.
Absolument. Puis c'est sûr que tu dis, on parle beaucoup de guérison, c'est sûr que dans mon domaine, c'est un mot auquel on fait très attention. Mais automoduler sa pharmacie interne, là, c'est démontré. Absolument. Donc, comme tu disais, le pas de plus, ça va être intéressant dans les prochaines années de voir où ce que tout ça nous amène.
Absolument. Et non, puis là, ça, c'est moi qui parle de guérison, mais je parle de guérison de l'être. Moi, j'ai jamais guéri personne. Là. Mmh. Et ils se sont guéris tout seuls s'il y avait à se guérir ou peu importe, mais effectivement, ils ont en tout cas vécu des transformations phénoménales dans leur corps qui leur ont permis de continuer à vivre dans un état agréable. Tu sais, c'est ça qui est important, là, tu sais, d'avoir, de se sentir bien, de se sentir libéré.
Mm-hmm. Puis de savoir qu'on a cette possibilité-là.
Absolument.
Si on y travaille, on peut effectivement avoir cette possibilité-là à l'intérieur de nous.
Moi, là, c'est tellement extraordinaire cette conversation-là, Caroline Croteau. J'espère que tu vas écrire un livre, parce que Joe Dispenza, c'est bien beau, là, tu sais, mais à un moment donné, il peut y avoir des Québécois aussi. Alors, j'espère que tu vas en parler longtemps. Est-ce que tu vas être à Québec, au Salon de l'éveil de Québec?
Je suis pas à Québec. Je suis à l'extérieur du pays par affaire, mais je vais être à Laval.
À Laval au mois d'août, fait que je referai ta promotion à ce moment-là. À tous les gens qui nous écoutent, merci de partager en grand nombre. Là, vous voyez que c'est diffusé sur mes deux pages, la page publique et la page de l'Institut de la santé consciente. Merci d'aller vous abonner à la page de l'Institut de la santé consciente parce que, comme je le dis tout le temps, c'est notre bénévolat, c'est gratuit. On veut diffuser des outils d'éveil. Aidez-nous à vous aider puis allez vous abonner à la page pour que ça devienne viral et qu'on ait de plus en plus d'outils justement pour vivre en santé le plus longtemps possible à tous les niveaux parce que moi, je m'intéresse surtout au niveau spirituel et psychique, mais le physique va suivre aussi. Merci Caroline, c'était passionnant de t'entendre.
Pareillement, merci beaucoup.
À bientôt, ciao.
À bientôt.